le compte à rebours. Merci, frère Neuville. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis toujours un peu pressé. Je viens juste d'arriver. Au téléphone, frère Mort m'a demandé de venir pour leur 50e jubilé de Pentecôte. Et j'ai essayé d'arranger les rendez-vous que j'avais aussi ailleurs avec les hommes d'affaires. Et je dis, j'ai tourné l'écouteur et j'ai dit, entendez-vous cela? Crois seulement. Vous savez ce que cela signifie? Puis je lui ai passé Billy et je suis sorti. Aussi, je ne sais pas comment ils vont s'arranger, mais c'est... Je suis pourtant vraiment heureux d'aller en Louisiane, voir ces gens là-bas, ces braves vieux méridionaux. Mais à peu près à la même époque, il faut que je sois en Floride, à la convention régionale des hommes d'affaires. Et c'est assez compliqué d'essayer de tout arranger comme cela sur le moment. Nous sommes tous heureux d'être ici ce matin, d'être en vie et avec ceux qui peuvent dire Amen. C'est juste. Maintenant, je suis désolé que nous soyons tellement serrés ici. Et il paraît qu'il y a des gens qui sont venus et repartis. Mais nous sommes, c'est tout ce que nous pouvons faire de mieux pour l'instant. Je suis sûr que vous le comprenez. Pardonnez-moi. Entendez-vous mieux avec celui-ci ou avec celui-là? Celui-ci, bien, apportez-le jusqu'ici de manière à ce que je sois plus près. Cet enregistrement-ci, très bien, monsieur. Eh bien, vous êtes-vous réjouis hier soir? Nous l'avons certainement eu et le Seigneur nous a bénis. Il y a tellement d'autres choses que nous pourrions dire sur le message. Je pense que peut-être vous pouvez l'étudier et vous pourrez réaliser entre les lignes dans quelle heure nous vivons. Nous sommes exactement à la fin des temps. Et je le crois. Évidemment, je pense que chacun a pensé cela puisque Jésus a promis de revenir. Mais vous savez, un jour, il viendra de toute façon. Voyez-vous? Aussi, je ne vois pas qu'il reste quelque chose qui doit encore arriver si ce n'est l'enlèvement de l'Église. Maintenant, juste avant de nous approcher du message que je désire donner ce matin sur le sujet du compte à rebours. Et maintenant, nous, et ce soir, rappelez-vous, le service de ce soir maintenant est vivant en sa présence, voyez-vous. Et nous allons essayer d'être rapides, de nous dépêcher pour que vous puissiez partir et que nous puissions travailler à nouveau pour lundi matin. Et nous sommes reconnaissants pour chacun de vous. Je ne sais pas vraiment pas ce que nous ferions sans vous. Je ne pourrais simplement pas continuer sans vous. Et je veux remercier tout spécialement Sir Williams. Je crois, je ne la connais même pas. Quand je me suis levé ce matin, mon frère Charlie Cox était là et le pas de la porte était plein de provisions, des conserves et toutes sortes de choses. Comme cette pauvre petite femme a dû transpirer cet été à faire ses conserves de tomates et tant de choses à manger. Maintenant, cela a une grande signification pour moi. Et Sir William, je crois que l'on a laissé votre Bible ici pour qu'on prie. Disons, pour prier que Dieu, j'ai prié ce matin, alors que je préparais le message pour que Dieu prenne le contenu de cette Bible et le place dans votre cœur. Et je prie Dieu de vous bénir. Je voudrais pouvoir vous payer pour cela, sœur. Je suis sûr que cela vous a donné beaucoup de travail et je vous remercie vraiment. Ce ne sont que des paroles, mais laissez-moi vous donner un passage des Écritures qui, nous le savons, comme je l'ai dit hier soir, ne failliront pas. Jésus a dit, ce que vous avez fait au moindre, et c'est bien au moindre, voyez-vous, au moindre d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et que ceci vous soit rendu exactement comme si vous lui aviez donné entre ses mains. Que Dieu vous bénisse pour cela. Merci à vous tous. Et quand vous êtes ici, je vois par les dîmes et les choses que vous payez, que vous avez confiance en nous, sachant que cela contribuera au royaume de Dieu. Maintenant, nous en sommes responsables, vous voyez, et nous devons en donner les comptes. Aussi, nous voulons prendre garde à tout ce que nous faisons, pour tout faire aussi parfaitement que nous le pouvons, de la façon dont le Seigneur le désire, car nous ne savons pas quand il nous appellera pour répondre et pour donner les comptes de tout ce qui nous est parvenu. C'est la raison, je crois, comme je disais hier soir, pour laquelle Paul n'avait qu'un seul manteau. Voyez-vous, il aurait pu en avoir d'autres, mais il n'en avait pas. Il ne pouvait se servir que d'un seul manteau à la fois. C'est pourquoi il n'en avait qu'un. Maintenant, je ne crois pas qu'il s'inquiétait des richesses du monde. Je ne crois pas qu'il recherchait la popularité. Vous voyez ce que je veux dire? Pas comme cela se passe aujourd'hui. Tout le monde, dans ces grands mouvements religieux, et tant de gens, je sais que ceci est enregistré. Et quand je dis certaines choses ici, je réalise que je ne parle pas seulement à cette assemblée, mais à travers le monde entier. Et parce que ces bandes vont vers beaucoup, beaucoup de pays, et ils les ont même jusque dans les tribus africaines, là-bas. Ils s'assoient, et le prédicateur les prend, et il les interprète pour ces gens là-bas, qui ne connaissent même pas leur main droite de leur main gauche, voyez-vous? Là-bas, en Australie, et là-bas où les gens sont même pas, la seule chose qu'ils mangent, c'est, pour avoir du sucre, ils prennent une petite écorce, en chassent les fourmis, et ils croquent dedans ainsi. C'est ainsi qu'ils survivent, par ce sucre. Et ils n'ont même pas de vêtements, ils n'ont rien. Ils prennent un vieux kangourou, ils le jettent dans le feu sans même le vider, avec les entrailles et tout, ils le font griller un peu et ils le mangent. Et c'est ainsi, c'est terrible. Et souvenez-vous que ces bandes sont écoutées là-bas. Le message que vous écoutez maintenant est donné là-bas par des centaines de missionnaires qui prennent ces bandes, qui les font écouter là-bas et qui les interprètent pour leurs gens. Oh, si vous voyez, quand j'arriverai là-haut, le jour du jugement, vous voyez tout ce qui reposera sur mes épaules. Et si je dirige mal quelqu'un, voyez-vous, là vous y êtes. Pensez seulement à une de ces âmes que je pourrais conduire vers quelque chose de faux. En conséquence, il faut que j'entende mon frère dans ces organisations. Et beaucoup sont des gens très bien, la plupart d'entre eux, j'en suis heureux. Mais certains deviennent sires. Et en général, les dirigeants en arrivent à être pris là-dedans et à en faire une affaire politique. Ici, ils s'occupent de politique. Et par là, ils s'éloignent de la parole de Dieu. Et je dois rester sur la parole. Je dois m'y tenir. Il faut que cela arrive ainsi. Et je dois bouger avec cela, c'est tout. Aussi, et nous allons, vous savez, nous chantons d'habitude juste un petit chant qui dit « Nous flottons au courant du temps, nous ne resterons pas longtemps. » Vous l'avez déjà entendu. « Les nuages orageux des ténèbres se lèveront sur un jour plus radieux. » C'est juste. « Prenons tous courage, car nous ne sommes pas seuls. » Ça, c'est juste. « Le canot de sauvetage va bientôt venir pour réunir les joyaux à la maison. » Voilà le moment où j'espère avoir un vêtement qui ne s'usera pas. C'est juste le vêtement éternel. Et il faut que je sois fidèle au Seigneur, sans prêter attention aux choses ici sur terre, jusqu'à ce que nous arrivions là-bas. Et alors, nous, ce sont ceux qui dureront. Aussi, dans ces 32 ans de ministère, j'ai essayé de rester fidèle à la parole. Je ne connais pas une seule chose que j'ai jamais eu à changer. Parce que je lis simplement dans la Bible et je ne dis que ce que dit la Bible. Et j'en reste là. Aussi, je n'ai rien eu à revoir ni à arranger parce que je le dis exactement comme la Bible le dit. Et j'ai trouvé que si Dieu a dit quelque chose, alors nous devons suivre cette parole pour la voir s'accomplir. Nous avons vu cela, comme je vous l'ai dit hier soir, une vision récemment, voyez-vous? Qu'il fallait que je sois là, m'avertissant que je sois là, et me disant 6 mois à l'avance d'être à cet endroit, et se tenant là, et disant, descends là-bas, 3 fois, avec eux, j'ai simplement marché avec les autres hommes. Et la vision passa exactement l'action de Dieu, et je suis resté là. Aussi nous voulons nous souvenir que nous devons rester sur la parole, rester exactement avec la parole. Et vous allez tout droit avec la parole là où elle vous conduit. Et elle prendra soin de vous, j'en suis sûr. Maintenant, je sais que vous êtes ici depuis 8 heures et qu'il doit être 10 heures juste maintenant. Oui, il est 10 heures. Aussi, adressons maintenant une prière à notre Seigneur. Y a-t-il des requêtes spéciales? Je vois là-bas beaucoup de mouchoirs. Levez la main pour les requêtes. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il y a assez longtemps que je le connais pour savoir ceci. C'est qu'il voit chaque main et connaît chaque cœur. Et la seule chose qui nous reste à faire est simplement de demander. Et vous le croyez et cela arrive. Maintenant croyez alors que nous prions. Père céleste, nous approchons maintenant du grand et puissant trône de Dieu comme des êtres mortels dans un corps naturel. Pourtant nos voix prononcent des mots qui vont vers ce grand trône quelque part dans une autre dimension où Dieu est assis. Parce que Jésus a dit, quoi que vous demandiez à mon Père, en mon nom, je le ferai. Et il nous a demandé de ne pas douter, mais lorsque nous prions de croire que nous avons reçu ce que nous demandons, et cela nous sera donné. Il a dit, même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et que vous ne doutiez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit va arriver, vous obtiendrez ce que vous avez dit. Père, nous savons que cela est véritablement vrai. Nous le constatons chaque jour et il n'y a pas d'erreur dans ta parole. C'est parce que nous ne pouvons pas être là où il faudrait. Quelquefois notre foi ne veut pas nous élever là-haut. Nous nous troublons et nous doutons. Mais ce matin, nous essayons de venir, Seigneur, avec une espérance nouvelle. Nous attachons à la ligne de vie de Christ et à ses promesses. Et nous venons dans la présence de Dieu par le nom de Jésus. Seigneur, je suis sûr que tu connais toutes les requêtes représentées par les mains qui se sont levées ce matin. La mienne aussi est élevée. Elle est constamment levée vers toi, Seigneur, parce que j'ai de grands besoins. Je te prie de répondre à toutes les requêtes. Regarde-les, Seigneur, et réponds à leurs prières, depuis le plus jeune jusqu'au plus vieux, depuis la plus petite requête jusqu'à la plus importante. Et alors, Père, réponds à chacune de ces demandes. Je te le demande dans le nom de Jésus. Rappelle-toi aussi de la mienne, Seigneur. Et je te prie et je te remercie parce que tu nous donnes un bon repos dans nos corps, et pour la connaissance que nous avons de ta parole et la compréhension que nous avons de ton esprit. Et nous te prions constamment de nous donner une compréhension plus grande pour que nous ne soyons pas des gens vains et gonflés d'orgueil à cause de celle-ci, mais des gens humbles, afin que le Saint-Esprit puisse se servir de nous pour l'accomplissement de la parole de Dieu et pour nous placer positionnellement là où nous devons être en cette heure. Car nous devons être à la place juste pour que cela arrive. Et nous le désirons, Seigneur. Si c'est une maîtresse de maison derrière la table, un ouvrier avec un outil à la main et un témoignage, si c'est le prédicateur à la chaire, ou le diacre, ou l'administrateur, ou l'enfant à l'école, ou le jeune en train de discuter en classe, qui que ce soit, Seigneur, que nous soyons là au bon moment. Car nous savons que tu l'as promis et que cela va arriver parce que tu l'as dit et que notre foi est construite là-dessus. Maintenant, Seigneur, nous sentons qu'il n'y en a plus pour longtemps. Les temps sont proches et nous pouvons sentir arriver le brouillard qui vient des espaces extérieurs. Nous savons que le jugement et la colère de Dieu sont prêts à tomber. Nous pouvons déjà en sentir les effets. Et nous te prions, Seigneur, de nous aider. Et maintenant, aide-moi, Seigneur, pour ce petit message d'environ une demi-heure de ce matin, à appeler le compte à rebours. Aide-nous, Seigneur, à comprendre exactement où nous en sommes. Et sanctifie-nous maintenant, Seigneur, enlevant nos péchés et nos manquements, et qu'il n'y ait pas une seule personne de perdue ici ce matin. Et que chacun soit prêt, qu'il soit dans ce grand cercle quand nous nous rencontrerons de l'autre côté. Et quand l'appel sera fait, que je puisse entendre répondre présent à chaque nom. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Et là-bas, les dieux seront jeunes à jamais, transformés en un moment immortel, se donnant semblables à lui, brillant plus que le soleil et les étoiles. Comme l'a dit Daniel, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours. Mais nous entendons ce que tu as dit aux prophètes. Marche vers ta fin, Daniel, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ô Dieu, que nous soyons reconnus comme dignes au travers du sang de Jésus. Nous ne nous réclamons d'aucun mérite personnel, mais par ces mérites, puissions-nous être dignes d'être debout en ce jour, confessant nos fautes et notre désir de nous tenir dans sa justice avec le grand prophète Daniel et tous ceux qui seront là quand les récompenses seront données. D'ici là, Seigneur, fais de nous des instruments entre tes mains. Fais de nos oreilles des instruments ce matin pour entendre la parole. Fais de mes lèvres des instruments pour la prononcer, car nous te le demandons au nom de Jésus et que notre entendement comprenne la volonté de Dieu. Amen. C'est si difficile de démarrer. On a toujours l'impression qu'il y a tant à dire, tant de choses que l'on voudrait dire, et si peu de temps pour les dire. Et peut-être avant que je ne parte, j'ai dit hier soir que nous pourrions peut-être arriver à prendre un des livres de la Bible, l'automne ou l'hiver prochain, avant que je ne parte. Je pars, je désire aller outre-mer, le Seigneur voulant, juste après Noël. Maintenant, pour la lecture, je désire prendre ce matin dans Hébreux chapitre 11. Et maintenant, écoutez bien attentivement la lecture, et je désire insister sur le troisième verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Maintenant, ceci est un texte un peu étrange, comme support pour le sujet que je désire aborder. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Maintenant, je veux me servir de ce sujet ce matin, le compte à rebours, parce que je désire faire un parallèle en ce qui concerne la prophétie. Hier soir, j'ai voulu enseigner un peu sur les Écritures. Ce matin, un message prophétique. Et ce soir, un message d'évangélisation. Maintenant, les choses qui ont été faites de choses qui n'étaient pas visibles. Maintenant, j'ai appris pendant toutes ces années que toutes les choses naturelles sont des types des choses spirituelles. Tout ce qui est dans le naturel. Maintenant, rappelez-vous simplement que lorsque vous voyez quelque chose dans le naturel, cela typifie une chose spirituelle. Voyez-vous, toutes choses sont faites de choses qui ne sont pas visibles. Vous voyez, le naturel alors a réfléchi le spirituel. Maintenant, alors que j'étudiais il y a quelques jours, je crois que je vous en ai un peu parlé hier soir, que je lisais ou que j'entendais à la radio du Canada qu'un docteur ici aux USA avait déclaré que l'homme avait eu une évolution de 14 millions d'années. On a découvert un os en Italie en 1800, aux environs de 1800, et on pensait que cet os était un os humain qui aurait pu être. On a cherché pour savoir à combien d'années il remontait. Et ce docteur était un vieil homme. Il avait passé toute sa vie à faire des recherches concernant cet os. Et il dit, cet os est l'os d'un homme vieux de 14 millions d'années. Maintenant, quelle absurdité! Comment un homme peut-il gâcher sa vie pour rien, essayant de contredire la parole de Dieu, et il n'en retire rien, si ce n'est une destination sans limite? Et tout le monde sait que si on enterre un os dans le sol, au bout de 20 ans, cet os change. Au bout de 100 ans, cet os est presque détruit, ce ne sont plus que des morceaux, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est été, voyez-vous? Et au bout de 1000 ans, 10 fois 100 ans, qu'en serait-il de cet os? Et encore 10 fois plus, serait 1 million, puis 14 fois 1 million. Oh, c'est juste, ce n'est même pas censé d'imaginer une telle chose. Un os ne pourrait jamais durer 14 millions d'années dans n'importe quelle condition. Tout le monde sait cela. Il avait peut-être trouvé quelque chose qui ressemblait à un os, ou quelque chose comme cela. Et puis, comment pouvait-on assurer qu'il avait 14 millions d'années, voyez-vous? Après tout, Dieu a fait l'homme sur la terre il y a 6000 ans, et ça s'arrête là. Quelqu'un m'en parlait il y a quelque temps à l'une de mes réunions. Je parlais de l'évolution de l'homme, et je disais qu'il n'avait que 6000 ans. Et cet homme m'a dit, « Eh bien, frère Branham, nous pouvons prouver que le monde est vieux de millions d'années. Aussi, en parlant de ces choses, vous vous trompez complètement. » Je dis, « Ne croyez-vous pas dans la Bible ?» Il dit, « Je crois que l'homme écrivit la Bible. » Et je dis, « C'est vrai que la main de l'homme a formé les lettres, mais le Saint-Esprit était derrière la main. » Vous voyez, il formait les lettres, parce que c'est ce que dit la Bible. Mais il dit, « Eh bien, vous devez bien admettre qu'il se trompe au sujet du monde. » Je dis, la Bible n'a jamais, jamais tort. Il dit, bien, si le monde était, vous pouvez voir les montagnes comme elles sont formées de volcans. Je dis, mais simplement vous. Il dit, et Dieu fit ce monde en 6 jours. Je dis, maintenant la Bible ne dit pas cela. Vous voyez, vous avez seulement cru qu'elle le disait. Je dis, retournons en arrière maintenant pour reprendre votre argument. Le premier chapitre de la Genèse dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est une période. Pendant combien de temps l'a-t-il fait? Je ne sais pas. Il ne nous l'a pas dit. Mais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est une période de temps. Puis, et le monde était informe. C'est alors que Dieu commença à s'en occuper. Voyez-vous? Donc il se creuse la tête pour rien. Voyez-vous? Dieu créa le monde. Il a pu le faire en 100 trillions d'années, je ne sais pas en combien de temps, mais il l'a fait. Il n'a pas dit en combien de temps, et ça ne nous regarde pas. Il a simplement dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est une période, c'est résolu ainsi, et c'est tout. En combien de temps il le créa, c'est. Mais la création commence à se faire maintenant, dans un autre temps, quand il commença. Et je crois que là, que toute chose sur la terre donne un reflet du ciel. Je le crois, parce que lorsque vous voyez que tout combat pour la vie, c'est parce qu'il y a une vie dont celle-ci est le reflet. Et je crois que lorsque Dieu créa l'homme, il commença à représenter les plus petites choses, comme la vie animale. Puis ensuite, il créa quelque chose de différent. C'est exactement comme la Bible a dit qu'il avait fait. Il fit d'abord les arbres et la vie végétale, puis il fit l'homme. Et alors, la dernière chose qui vint de la terre en tant que création fut l'homme. Rien de plus grand n'en est jamais sorti. Et pourquoi cela? Parce que c'était un reflet parfait du plus grand dans le ciel. Dieu est homme, voyez-vous? Dieu est homme, et donc il le prouve. Et lorsque Dieu descendit pour vivre parmi nous, il était un homme, voyez-vous? Un homme. Ainsi, ça montre que la perfection de l'évolution était Dieu qui est homme. Prenez un arbre, vous prenez l'herbe, etc. Prenez un arbre, il représente l'arbre de vie qui est dans les cieux. Toutes ces choses combattent pour atteindre la perfection. Et toutes choses, dans le naturel, comme le dit Hébreu ici, furent faites de choses invisibles. En d'autres mots, elles sont surnaturelles. Et le surnaturel reflète le naturel. Ainsi, si c'est ainsi ce que je crois, alors toute chose qui arrive sur terre est un type des choses spirituelles qui arrivent. Voyez-vous, il faut qu'elle reflète quelque chose, l'accomplissement de l'homme. Maintenant, nous voyons que comme le corps naturel, voici un corps naturel, et le corps est fait pour se reproduire, pour donner des enfants. Et maintenant, le corps naturel, dans la naissance naturelle d'un bébé, nous voyons que la première chose qui vient, c'est l'eau, puis le sang, puis la vie. Nous voyons que dans le corps spirituel de Christ, la première, c'est l'eau, puis le sang, puis la vie. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Voyez comment c'est représenté. Toutes les choses naturelles représentent les choses spirituelles. La naissance naturelle. Prenons par exemple le mariage en tant qu'union. Nous voyons cela, le mariage. Nous voyons le temps qu'il y a pour faire la cour, puis le temps des fiançailles, puis le mariage. Alors, cela est établi pour toujours. Maintenant, c'est la même chose avec Christ et l'Église. Voyez-vous, faire la cour, c'est Dieu appelant notre cœur et nous nous soumettons à lui. Puis il y a la cérémonie du mariage. Et l'épouse prend le nom de l'époux. Voyez-vous? Voyez-vous? Vous y êtes. C'est ce que fait l'épouse. Maintenant, l'épouse prend toujours le nom de l'époux. Oh, il y a tant de choses que nous pourrions dire ici. J'ai une liste écrite ici qui me prendrait 2 heures rien qu'à énumérer, presque. Et les versets pour les prouver, comme si vous vouliez quelques versets pour prouver ceci ici. Comme 1 Jean 5-7 montre la naissance naturelle et la naissance spirituelle, etc. Ô Saint-Esprit, et 3 dans les cieux, Père, Fils et Saint-Esprit, ces 3 sont 1. Il y en a 3 qui sont d'accord sur terre. Ils ne sont pas 1, mais ils sont d'accord en 1 sur terre. Ce sont l'eau, le sang et l'esprit. Vous voyez ? L'eau, le sang et l'esprit, comme le typifie la naissance naturelle. Aussi, si un homme s'arrête à cette pensée, seulement la justification, c'est tout ce qu'il vous faut, il a tort. Il a tort. Il a forcément tort. Et si une église croit, comme beaucoup d'églises pentecôtistes, que c'est seulement le Saint-Esprit, c'est tout, repentez-vous seulement, ayez le Saint-Esprit, c'est encore faux, parce qu'il vous faut la sanctification pour vous purifier avant que le Saint-Esprit ne vienne. Si vous ne le faites pas, vous excluez le sang, voyez-vous? Et la nouvelle naissance, comme les gens qui disent que le baptême du Saint-Esprit est une nouvelle naissance. Maintenant, ceci est faux. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque vous êtes né de nouveau. Mais le Saint-Esprit, c'est lorsque la puissance vient dans cette naissance en vue du service. C'est exact. Voyez-vous, le Saint-Esprit est baptisé dans le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, vous avez la nouvelle naissance en croyant au Seigneur Jésus. Voyez-vous, en ayant la foi et en l'acceptant comme votre sauveur, c'est la naissance, voyez-vous, parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Maintenant, si vous voulez démontrer cela, prenez Jean 5, 24. Celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voyez, il a la vie parce qu'il croit. Et ce même groupe doit aller jusqu'à la Pentecôte pour être baptisé du Saint-Esprit. C'est exact. Le Saint-Esprit est la puissance pour le service. Aussi, quand vous dites que vous devez être né de nouveau et que vous appliquez cela au Saint-Esprit comme beaucoup de méthodistes, etc., ils ont tort là. Ce n'est pas possible. Cela ne s'accorde pas avec les Écritures ici. Vous êtes à côté. Il faut le prendre la façon dont les Écritures l'ont placé ici, voyez-vous? Et le Saint-Esprit est que vous recevrez la nouvelle naissance après cela? Comment? Non! Vous recevrez la puissance, Actes 1-8, après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Voyez-vous? Et ils avaient déjà cru en la vie éternelle, etc. Mais il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour avoir la puissance. Vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Parce que le Saint-Esprit est le témoin de la résurrection, montrant que vous êtes devenu un adulte en Jésus-Christ. Maintenant le naturel. Toutes les choses spirituelles, tout ce qui arrive, etc., typifie le surnaturel. Ou le naturel est un type du surnaturel. Maintenant, nous sommes allés à l'exposition mondiale quand nous étions tout près là-bas à Spokane. J'ai voulu y emmener ma famille parce que je ne suis allé qu'à une seule exposition mondiale aux États-Unis. C'était à Chicago il y a bien des années. Je suis allé avec Hope et nous n'y sommes pas restés plus d'une journée avec les pickpockets et tout ce qu'il y avait là. Elle avait une broche que ma cousine lui avait donnée et je marchais tout près d'elle et quelqu'un lui vola la broche. Simplement, c'était effrayant. Et aussi, nous sommes restés une journée et nous sommes rentrés. Mais l'exposition mondiale, j'ai pris la famille et je suis parti là. Ce n'était pas que la foire de Louisville juste ici. Vous avez vu l'aiguille de l'espace dont on parle. Mais c'était rien d'autre que d'aller juste au bâtiment Hesley ou au bâtiment Brown ou n'importe où et de monter en ascenseur jusqu'au 8e, au 10e étage et de redescendre. C'était tout. Et je crois que c'était la Compagnie Générale Électrique qui avait cela. Mais il y avait quelque chose de remarquable pour moi. Maintenant, l'Allemagne avait son exposition, la Russie et toutes les autres nations avaient aussi la leur, parce que c'était une exposition mondiale. L'exposition de la France et de l'Allemagne n'était pas dans une pièce beaucoup plus grande que cette chaire ici. Mais les scientifiques montraient leur réalisation. Et la chose principale sur laquelle ils faisaient des expériences était l'usage du tabac. Et un fumeur qui serait entré là et après en être sorti aurait encore fumé, aurait été un peu fou. Quand j'ai vu de mes propres yeux qu'on prenait une cigarette, on la mettait dans une machine pour en retirer la fumée, et que cette fumée soufflait dans un tube à essai, il provoquait un cancer blanc avec une seule cigarette. Et alors, il dit, beaucoup de gens disent, ces expériences mondiales sont très importantes sur la fumée. Il dit, beaucoup de gens disent qu'ils n'avalent pas la fumée. Et le savant prit lui-même la cigarette, il en tira une bouffée sans la rejeter par le nez. Ou même, il l'avale juste dans les poumons, mais simplement il la prit dans sa bouche, puis il la souffla dans le même tube à essai. Il n'y avait pas de cancer dedans. Et il dit, où est-il passé? Dans ma bouche. Quand j'avale, elle descend dans l'estomac, évidemment. Il dit, maintenant, alors une pensée me vint à l'esprit. Pourquoi les médecins disent-ils que les cigarettes ne font pas de mal? Il dit, c'est un homme qui vendrait son droit d'aînesse. Un docteur qui déclare cela peut s'arrêter de travailler parce que les marques de cigarettes lui donneront assez pour qu'il puisse se retirer. Il vend réellement son droit d'aînesse parce qu'il a juré de ne pas faire une chose pareille. Mais de toute façon, ils le font. Et il dit, maintenant, voici les appareils. Nous allons vous donner une preuve par une expérience scientifique. Il y avait là Yul Brynner, là, vous savez, l'acteur de cinéma. Et cette petite parcelle de nicotine, il dit, maintenant vous parlez de bouffiltre. Un homme qui dit cela prouve simplement sa condition mentale. Parce que si vous n'avez pas de fumée, vous n'avez pas de goudron. Et le goudron donne la fumée. Et si vous fumez une cigarette à bouffiltre, dit-il, il vous en faudra 3 ou 4 pour vous donner la même satisfaction avec une des autres. Parce qu'il faut une certaine quantité de goudron pour vous satisfaire. Si vous n'avez pas de fumée, c'est parce qu'il n'y a pas de goudron. Il faut du goudron pour avoir de la fumée. C'est ainsi. Il dit fumez, si vous voulez fumer, prenez-en une qui n'a pas de filtre. Une seule cigarette vous satisfera, alors qu'il en faudrait 3 des autres parce que vous n'en obtenez pas assez de goudron. C'est juste un truc pour vendre. Voilà de quoi la nation est pleine. De trucs pour vendre, de saleté et de bien d'autres choses. Puis il prit cela et il montra comment cette petite parcelle s'accrochait dans la gorge ou dans les poumons. Au départ c'est blanc, puis rose, puis du rose, la passe au violet. Les particules de la petite cellule étaient juste grandes comme ça à travers la loupe. Mais évidemment il faut prendre une loupe puissante, juste pour voir la cellule. Alors il dit, quand ça devient violet, vous avez le cancer. Il y a un homme qui fume un paquet de cigarettes par jour a 70% plus de chances de mourir du cancer qu'un homme qui ne fume pas. Et cela paraît idiot de prendre une chance pareille. Maintenant, puis il prit autre chose pour le prouver. Il prit un rat blanc et il prit une cigarette et il l'a mis dans un appareil et il l'a mis dans quelque chose qui ressemble à du marbre blanc. Et il fit un prélèvement et il prit la nicotine sortie d'une seule cigarette. Et il l'appliqua sur le dos du rat. Toutes les semaines, ils avaient un autre rat. Il fallait qu'ils en aient 2 pour la démonstration de chaque jour. Ils gardaient chaque rat 1 semaine. Et quand ils le reprenaient, il avait sur le dos un cancer de cette taille. Certains ne vivent même pas jusqu'à la fin de la semaine. Le rat ne pouvait pas bouger. Je n'ai pas pu manger pendant 2 ou 3 jours d'avoir vu cette chose affreuse. Cet animal qui était là avec le cancer, qui lui descendait jusque dans les pattes, et partout un important cancer, une inflammation de presque 2 cm de haut couvrait le dos du rat, à cause de la nicotine d'une seule cigarette. Et vous pensez que ça les arrête? Il y avait là un grand gaillard assis à côté de moi, et la sueur lui coulait sur le visage. Il dit, c'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Je lui dis, est-ce que vous fumez? Il dit, oui monsieur, je fume. Je lui ai dit, alors vous devriez arrêter. Voilà ces expériences qui peuvent prouver ce que cela a fait. Maintenant j'ai prédit que si le monde continue et si la civilisation existe, au temps de la prohibition, quand il y avait une telle amende pour avoir vendu une bouteille de whisky, il y aura une amende 10 fois plus forte à payer pour avoir vendu un paquet de cigarettes d'ici quelques années, si la civilisation existe. Car c'est 10 fois plus mauvais que le whisky, c'est sûr. C'est quelque chose qui vous tue, et vous pouvez le dire aux gens, et il n'y faut même pas attention. Oh, ce n'est qu'un prédicateur fanatique. Et c'est tout. Vous voyez, c'est bien cela, il n'y faut pas attention. Mais mon point de vue est ceci, ce que les expériences scientifiques ont accompli. Ils étaient là, à l'exposition mondiale, montrant par la recherche scientifique ce que la science a été capable d'accomplir dans les choses naturelles. Mais maintenant, nous sommes ici, montrant par des recherches spirituelles ce que Dieu a été capable de faire avec des gens qui croiront à sa parole. Maintenant, pour accomplir des choses scientifiques, il faut que vous travailliez selon la science. Pour accomplir des choses spirituelles, il faut que vous travailliez selon ce qui est spirituel. Maintenant, vous pensez bien que cela a été horrible à voir, si vous l'aviez vu. Je voudrais en avoir une photo simplement pour vous la montrer. Si j'avais pu en avoir une, je l'aurais prise, mais ce n'était pas permis. Mais remarquez, évidemment, le rat n'avait plus que quelques heures à vivre. Certains ne peuvent même pas vivre la semaine entière. Mais pensez-y, vous pensez qu'il était rongé par le cancer, mais si vous pouviez voir l'aspect d'une âme qui a rejeté l'évangile, il faudrait que vous voyiez quelle chose horrible cela est. Comment un démon peut se rendre maître d'un homme et peut pervertir un fils de Dieu jusqu'à en faire une chose affreuse à voir ce qu'il est aux yeux de Dieu. Oh, il peut mesurer 1m80, être bien costaud, avoir des cheveux frisés et je ne sais quoi encore, ça ne veut rien dire. C'est l'intérieur de l'homme qui durera. L'extérieur n'est que poussière de toute façon. Ainsi, ce sont des exploits qu'on veut vous montrer. On a cette aiguille de l'espace et tout cela. Ils veulent montrer ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont été capables de faire. Et ils expliquent toutes les expériences atomiques, etc. Ils ont une prévision de ce que la Chevrolet sera. La General Motors en avait une exposition, ce que, dans un autre, au siècle prochain, ce que serait la Chevrolet du XXe siècle. Elle m'a paru comme un gros tuyau avec une espèce de capuchon dessus. Maintenant, il montre comment elle marchera et se déplacera grâce à la puissance atomique avec une sorte d'aile qui s'élèverait et aurait le contrôle. Ce serait un grand avantage. Mais je me demande si je pouvais retourner dans les pages du livre de Dieu ce matin et voir à quoi ressemblera l'Église à cette époque. Voir les exploits que Dieu a accomplis. Oh, comme il y a toujours des choses qui arrivent dans cet âge de la terre et qui représentent quelque chose qui vient d'ailleurs. Mais quand cela frappe la terre, c'est en général dans une condition de perversion parce que c'est dans le monde des ténèbres et du péché. Voyez-vous? Mais alors il y a une vraie représentation dans le royaume spirituel, dans une autre dimension. Nous sommes d'abord dans les trois dimensions, puis la sixième dimension à sa représentation. J'en suis si heureux. Maintenant, prenons seulement les choses que nous avons été capables d'accomplir dans ces dernières années. Maintenant, commençons avec quelque chose qui est arrivé. Je ne vais pas vous retenir longtemps, Dieu voulant, mais je désire que vous voyez cela rapidement. Et, oh, quand cela m'arrive, j'ai l'impression que je m'envole. Maintenant, remarquez qu'il y a quelques années, les transports se faisaient par les chevaux et les voitures, il n'y a pas si longtemps. J'ai voyagé en voiture à cheval et en selle. Quand j'étais un garçon de 15 ou 16 ans, j'allais à cheval et j'allais en ville en voiture à cheval. Je passais juste devant cette église ici. Il y avait là une route boueuse et un marécage ici, plein d'herbe presque aussi au-dessus de maison. Et avec la voiture et le cheval, je livrais des haricots et des choses de la ferme. Maintenant, j'y pars dans une voiture perfectionnée. Quelle différence! L'époque des voitures à chevaux, puis l'époque de l'automobile. Et puis arrive l'époque de l'avion qui s'élève de la terre dans les airs. Maintenant, si vous voulez bien faire attention, aussi certainement que la science a accompli ses exploits, si on veut avoir un esprit spirituel et comprendre, cela représente l'accomplissement des exploits de Dieu avec son Église. Maintenant, les jours. Et souvenez-vous que le messager est toujours venu à la fin du message. Nous savons dans les âges de l'Église comment nous avons découvert cela maintenant. Les jours des voitures à cheval, qui étaient? C'était l'achèvement de l'âge de Luther, vous voyez? C'était l'âge des voitures à cheval. Ils croyaient à la justification. Dieu faisant sortir l'Église du romanisme, du catholicisme, il amena son premier exploit spirituel qui est le juste vivra par la foi. C'était l'époque des voitures à cheval. Ils sortirent de l'époque des voitures à cheval et ils finirent cela. Maintenant, au point de vue transport, l'exploit suivant de l'homme sur l'automobile. Et vous pouvez remarquer que l'automobile n'arrête pas d'augmenter en puissance. Et maintenant, à la fin de l'âge de Wesley, l'exploit suivant fut la sanctification, ce qui signifie que l'Église s'élève de l'état de justification à l'état de sanctification. Maintenant, alors que nous avançons, je veux que vous vous rappeliez ceci, que l'Église, appelée Église, n'est pas l'Église. L'Église est l'Église spirituelle. 10 000 fois 1 000 luthériens qui font partie de l'Église n'en savent pas plus sur la justification qu'un porc n'en connaît sur une selle de cheval. Ils n'y connaissent rien. Et dans l'âge de Wesley, les 10 000 qui professaient la sanctification n'en connaissaient pas plus sur le pouvoir sanctifiant de Dieu qu'un lapin n'en sait sur des chaussures à ski. Vous voyez? Ils l'ignoraient complètement. Mais il y avait un peuple qui la réalisait. Alléluia! Vous voyez où je veux en venir? Il y avait quelqu'un qui savait ce que justifier signifie aux yeux de Dieu. Avoir la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques-uns, ces luthériens étaient sincères. Ils croyaient, qu'importe ce que disait l'Église catholique, ils croyaient à la parole de Dieu. Et ils s'y tenaient parce que le messager de cet âge prêchait, le juste vivra par la foi. Et ils croyaient à un état de justification. Et ils étaient capables, par la grâce de Dieu, d'accomplir la justification, d'avoir la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous remarquons encore, les méthodistes arrivent avec la sanctification. Il y avait beaucoup de ces méthodistes qui étaient réellement sanctifiés. Maintenant, il y en a beaucoup qui le prétendent et qui n'y connaissent rien. L'Église méthodiste enseignait la sanctification. Ils disaient qu'ils descendaient, criaient, revenaient, et ils disaient « Gloire à Dieu, je suis sanctifié !» Et ils retournaient vivre exactement comme ils l'avaient fait auparavant. Mais certains de ces hommes et de ces femmes étaient réellement sanctifiés, séparés des choses du monde, et vivaient une vie consacrée, mise à part. Pourquoi? C'était l'âge de l'automobile, qui possédait plus de puissance en chevaux. L'automobile, le vieux modèle T devait avoir 15 ou 20 chevaux, vous voyez? 15 ou 20 chevaux réunis dans une petite machine comme celle-là. La sanctification. Quand la science accomplit quelque chose dans le naturel, Dieu accomplit quelque chose dans le spirituel. Vous voyez? Il se passe toujours quelque chose. Puis, après l'âge de la sanctification, maintenant, prenez un homme comme le vieux Beveridge. Y a-t-il un homme plus grand que le vieux frère Beveridge? Et regardez John Wesley, George Whitefield, Finney, Knox, beaucoup de ces vieux méthodistes qui ont durement travaillé. C'était l'enfer sur la terre pour eux, à cause des persécutions, parce qu'ils croyaient que la parole de Dieu enseignait la sanctification, le deuxième degré de la grâce. Ils s'y tenaient, ils y croyaient, ils ont fait des miracles à cause de cela. Exactement comme Henry Ford et les autres ont fait, lorsque du cheval, ils sont passés au vieux modèle T de Ford, et ils ont continué au-delà de l'effort du cheval. Et Wesley a continué au-delà de l'effort de Luther. Et puis la Pentecôte. Et comme la science du monde était capable de construire un moteur automobile, les frères Wright qui ont créé ou fabriqué plutôt l'avion, la machine volante était bien au-dessus de la voiture sur la Terre parce qu'elle s'élevait en l'air. Maintenant, les frères Wright, en faisant cela, furent capables par la science d'élaborer quelque chose ici sur Terre qui montrait qu'un grand événement spirituel allait arriver. Et lorsque les frères Wright arrivèrent à ce que l'homme puisse s'élever au-dessus de la terre, on vit apparaître la Pentecôte qui s'éleva grâce au don spirituel avec le baptême du Saint-Esprit. Elle s'éleva dans les airs. Oh, alléluia! Ses pieds quittèrent le sol de façon à pouvoir voguer en s'élevant dans les airs. Oh, comme on était loin de la voiture à cheval, loin de l'automobile, on était dans les airs. Avec des heurts, des essoufflements, des chocs, mais on volait. Voyez ce qu'un homme réalise sur terre. Car ces choses sont faites de choses invisibles. Dieu put accomplir quelque chose avec un peuple rempli de l'esprit, qui avait faim et soif, et qui voulait rester avec la parole. Maintenant, si Wesley n'avait pas fait un pas en avant, en se tenant sur la parole, alors qu'on le traitait de tous les noms, disant qu'il était fou et bien autre chose, Il n'aurait jamais été capable de faire quelque chose. Mais Wesley était un des grands savants de Dieu. Luther fut un des grands savants de Dieu. Peu leur importait ce que disaient les églises, ni ce que disaient les organisations. Luther ne s'inquiétait pas de ce que disaient les catholiques. Il croyait que le juste vivrait par la foi. Alléluia! Et il prit les substances chimiques de Dieu dans la parole, il les réunit, et l'Église avança par la foi. Wesley les assembla par le sang, il en fit la preuve par le sang, et l'Église fut sanctifiée. Les pentecôtistes croyaient que le baptême du Saint-Esprit, que la promesse est pour vous, pour vos enfants et ceux qui sont au loin, et ils réunirent les substances chimiques de la parole, et ils s'élevèrent dans les airs. Alléluia! Ils s'élevèrent parce qu'ils furent capables d'accomplir une telle chose. Maintenant, pourquoi ces hommes firent-ils ceci? Pourquoi Luther le découvrit-il? Pourquoi Wesley le découvrit-il? Pourquoi les autres le firent-ils? Parce qu'il y avait sur la terre le matériel dont on pouvait faire une Ford Model T. Il y avait l'électricité qui pouvait faire démarrer la voiture. Il y avait du pétrole dans la terre, il y avait des pistons, etc. Toute la mécanique, le carbone pour le générateur, tout ce qu'il leur fallait pour créer cette chose. Et remarquez cela, il commença fabriquer plutôt, pas créer. Dieu est le créateur et il avait tout là. Mais les hommes qui le croyaient dans le domaine scientifique, du naturel, approfondirent cela et ils ne voulurent pas accepter qu'il n'y ait pas de réponse. Ils y croyaient, c'était une révélation dans leur cœur et ils s'y tinrent jusqu'à ce qu'ils eurent prouvé qu'ils avaient raison. C'est ainsi que John Wesley fit la preuve de la sanctification. Le matériel était là, c'était la parole de Dieu qui l'apportait. Il le crut, qu'importait que toute l'Église anglicane, tout le rejeta. Il s'en tint à sa conviction et il l'approuva. Et les pentecôtistes arrivèrent. Et ils prouvèrent, parce qu'ils avaient le matériel nécessaire, que le Saint-Esprit était juste. Et ils s'élevèrent dans les airs. Avez-vous remarqué? Un événement scientifique en accompagne un autre, complète l'autre. Ce n'en est qu'une forme plus parfaite, voyez-vous. L'automobile était une forme de transport plus parfaite que les chevaux. Et l'avion est une forme plus parfaite de transport que l'automobile. Mais ils se suivent. La puissance en chevaux. Amen. Si telle est la puissance en chevaux, qu'en est-il la puissance de Dieu? Qu'en est-il du Saint-Esprit et de sa puissance? La puissance du Saint-Esprit qui peut vous justifier, cette même puissance du Saint-Esprit peut vous sanctifier. La même puissance du Saint-Esprit qui peut vous sanctifier peut vous remplir de sa présence. Et d'humbles scientifiques qui ne savaient même pas leur alphabet le découvrir. Pourquoi? C'étaient des scientifiques spirituels. Amen. Ils virent quelque chose, ils y crurent. Les hommes le firent grâce à leur instruction. Les scientifiques naturels, les scientifiques spirituels le firent par révélation. L'un par son instruction, l'autre par révélation. Oh, si nous pouvions seulement nous y mettre. Il y a toutes sortes de matériel devant nous, c'est juste. Maintenant, nous remarquons comment cela arrive. Comment Dieu put réaliser cela dans les pentecôtistes s'élevant dans les airs. Comment ils, alors, purent restaurer à l'Église la guérison, le parler en langue, la révélation, les dons de l'Esprit. Ni Luther ni Wesley ne connaissaient rien de cela. Ils ne l'ont jamais enseigné. Ils n'en savaient rien. Ce n'était pas pour leur âge. Eh bien, qu'est-ce que Henry Ford aurait pu savoir d'un avion à cette époque, avant les frères Wright? Voyez, on ne pouvait pas le savoir. C'est la même chose que l'homme qui conduisait une voiture à cheval. Il y a 500 ans, il ignorait qu'il pouvait y avoir une voiture sans chevaux. Seulement la Bible disait que ce serait là. Aussi, on fut capable de le prouver par la recherche scientifique. Et quand cela arriva sur terre, Dieu le représenta par une œuvre dans son Église. Car ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voyez, c'est le reflet. Maintenant, l'âge de la Pentecôte, qui pendant ces 50 dernières années a suscité des réveils tout autour du monde, avec toutes sortes de choses, et ils ont eu des guérisons, des malades et des escroqués guéris, des aveugles ont recouvré la vue. Pensez-vous que le monde l'a cru? Non, monsieur. Ils n'ont pas cru Luther, ils n'ont pas cru Wesley, ils n'ont pas cru les pentecôtistes. Mais Dieu prit la Bible et rechercha un homme qui était volontaire pour le faire. Prit la Bible et prouva que c'est juste. Amen. Maintenant, nous devons nous rappeler de cela. Nous devons le croire. Voyons que ces choses étaient un type. Maintenant, nous avons dépassé l'âge de la Pentecôte. L'âge de la Pentecôte, comme je l'ai déjà démontré, débouche dans l'âge de l'Odyssée. Mais quelque chose d'autre est arrivé. Nous avons un astronaute maintenant. John Glenn fut notre premier astronaute. Et nous voyons que cela dépasse de si haut l'avion. L'avion ne peut aller qu'aussi loin que sa propre force, etc. Mais ceci est par une puissance atomique, une grande puissance qui le fait aller tellement plus haut qu'un avion. Cela n'a même rien à voir avec un avion. C'est juste. Il a été capable de faire cela, c'est juste. Maintenant, nous avons un âge naturel de l'astronaute. Et souvenez-vous que le messager vient toujours à la fin du message précédent. Nous avons démontré cela. Maintenant, nous sommes dans la ligne de l'astronaute. Amen et amen. Dieu l'a fait. La science a pu prouver qu'il y a un astronaute qui peut aller si loin que vous ne pouvez même pas le voir avec votre œil naturel. Et il peut aller là qu'il y ait de la pression ou non. Il peut aller si loin parce qu'il est dans une capsule pressurisée et il peut s'élever, voguer et voir le monde alentour. Un astronaute. Oh, un tel âge arrive. Oui, monsieur, aller complètement au-delà de toutes les choses et tout parcourir, tout là-bas, au-delà de tout. Qu'est-ce que cela représente? Un âge spirituel, un temps spirituel dans lequel Dieu va avoir des astronautes spirituels. Amen. Ils sont ici, juste maintenant. Alléluia. Les ailes de l'air peuvent aller plus haut que n'importe quel autre oiseau. Ils peuvent voler au-delà de tout. Ce sont des astronautes spirituels, gloire, qui peuvent prendre la parole de Dieu et prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un astronaute spirituel. Oh, gloire! Comme je me sens bien à l'idée de vivre dans cet âge. Maintenant, quelle chose merveilleuse pour un astronaute spirituel. Voyez-vous? Que font les scientifiques naturels? Ils ont été capables de réaliser cela. Et Dieu, par l'homme qui veut s'en tenir à la Bible, et dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et qu'il n'a pas peur de la promesse, sans se préoccuper de ce que les autres disent, et il s'en tient là, vous devenez un astronaute qui peut aller si loin qu'il est au-delà des pensées dénominationnelles. C'est au-delà de quoi que ce soit. C'est au-delà des choses de l'Église. Vous tenez là-haut, très loin, avec Dieu et avec lui seul. Des astronautes. Et rappelez-vous que pour devenir un astronaute, il faut être dans une capsule qu'on ne peut pas contrôler soi-même. Il faut une puissance de radar, une puissance atomique pour l'élever dans l'espace. Et alors il est dirigé par une tour de contrôle. Gloire ! L'astronaute spirituel de Dieu est semblable. Il entre dans une capsule, dans un lieu, dans un corps. Et ce corps est le corps de Christ. Alors, ce n'est pas lui, ce n'était pas John Glenn, c'était la capsule dans laquelle il était. C'était la machine. Il était simplement là, il ne faisait rien. Il eut simplement le vrai courage d'y entrer et de dire c'est juste parce que la science l'avait prouvé. Dieu désire des hommes qui peuvent venir en Christ et croire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui ne prennent pas leurs propres idées et qui s'élèvent dans l'espace contrôlé par le Saint-Esprit. Amen. Des astronautes. Oh, comme cela est loin de la voiture à cheval, comme cela est loin même de l'avion, comme cela est loin de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit. Ils deviennent des aigles. D'abord, ils étaient des lézards, puis ils devinrent des poulets, puis des corbeaux. Mais maintenant, ils sont des aigles. Personne ne peut les suivre. Un aigle est un oiseau spécial. Il peut aller plus haut que tout autre oiseau. Il est fait pour voir, pour garder sa tête à niveau quand il s'élève là-haut. Et certains peuvent sauter assez haut, mais ne pas savoir où ils sont. après être arrivés parce qu'ils ne peuvent pas voir au-delà de ce qu'ils ont sauté. Mais il y en a qui peuvent regarder en arrière et voir ce qui arrive. Ce sont les aigles. Il peut se tenir là et regarder et attendre jusqu'à ce qu'il entende un message qui lui enseigne ce qu'il faut dire. Voilà l'astronaute de Dieu. Voyez-vous, il a suivi tous les autres progrès. Pourquoi ne suivrait-il pas celui-là? Astronaute pour Jésus. Amen. Il ne décolle même pas par sa propre puissance. Il est lancé. Il ne fait qu'une seule chose. Il entre. Entrer, c'est tout ce qu'il a à faire. Dieu le lancera et le placera. Ce n'est plus par la force de l'essence, et non plus par quelques credos d'église. C'est la puissance atomique de Dieu qui vous pousse tout droit dans l'espace, là-haut. Amen. Oh, eh bien, qu'y a-t-il dans ces astronautes? Ils n'ont jamais besoin de... Ils prirent juste le mot justification, juste le mot sanctification. Ils sont entrés dans toute la Bible. Amen. Il est entré dans tout parce qu'il sait que Dieu est capable d'accomplir toutes les promesses qu'il n'ait jamais faites. Il s'assoit simplement là et il attend. Oh, la parole doit se manifester. Si vous êtes malade et que vous êtes un astronaute, rappelez-vous simplement d'entrer en Christ et d'attendre le compte à rebours, c'est tout. Il lancera la fusée, ne vous en inquiétez pas. Maintenant, il est capable de l'accomplir parce que Dieu l'a promis. Maintenant, l'astronaute, ces choses maintenant, est bien plus fort que l'ancienne force du cheval, que la force de l'automobile et que la force de l'avion. Vous voyez, l'astronaute va si haut qu'il peut voir des choses qu'un homme dans une voiture à cheval ne pouvait pas voir. Il va si haut qu'il peut voir des choses qu'un homme dans une automobile ne peut pas voir. Et il va si haut qu'il peut voir des choses qu'un homme dans un avion ne peut pas voir. Il est parti complètement en dehors du raisonnement. Amen. Gloire, c'est bien cela. Il est au-delà de tous les progrès auxquels un homme pouvait penser. Les organisations, les dénominations. Il faut que vous soyez méthodiste, baptiste, ou que vous apparteniez à ceci, les unitaires, les binitaires, ou tout ce que vous voulez. Il est un astronaute. Il s'est envolé jusque dans les grands espaces. Amen. Comme je suis reconnaissant. Et rappelez-vous que l'astronaute est contrôlé par la puissance d'un radar. Vous les avez vus ramener John Glenn. J'ai regardé là-bas à Cap Canaveral et j'ai vu ce grand et gros radar et vous ne pouviez le voir nulle part. Mais vous pouviez savoir où il était par la manière dont ce radar était dirigé. C'est là qu'il était, voyez-vous? Et nous avons un radar aussi. C'est la prière. La prière, c'est la puissance du radar qui dirige l'astronaute. Demandez au Père ce que vous voudrez en mon nom et je le ferai. Voyez-vous? Vous observez où va la prière et vous pourrez voir le chemin qu'il montre. Amen. Regardez simplement la manière dont prie l'Église et vous pourrez voir où voleront les missiles. Vous pouvez le voir par la manière dont voyagent les astronautes, par la manière dont l'Église prie. Il prie, Seigneur, bien sûr, nous ne croyons pas en ces choses. Oh, cet astronaute est en train de descendre, c'est tout. Oh, frère, mais quand toutes choses sont possibles, Seigneur, répands ton esprit sur l'Église. Et donne-lui ce dont nous avons besoin. Répands sur nous le Saint-Esprit et enlève-nous tout raisonnement. Croyons que la parole est juste et que nous allons nous tenir sur elle. Il regarde l'écran, puis il commence à lever la tête ainsi. Voyez-vous, l'astronaute monte et monte tout droit dans les airs. C'est merveilleux. Il va au-delà de toute dénomination, au-delà de tout credo. Maintenant, rappelez-vous que la justification est reliée à un credo. C'est vrai. Vous croyez à la justification, comme quelque part les luthériens et tous leurs satellites, c'est ce qu'ils sont, des satellites, mais ils ne s'élèvent pas de la terre. Vous prenez la sanctification et ces satellites. Vous dites, quels sont les satellites des luthériens? Eh bien, l'Église de Christ et ce groupe-là, quels sont les satellites de Wesley, les méthodistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté? Ce sont leurs satellites. Puis les pentecôtistes et leurs satellites. L'avion, certainement, les unitaires, les binitaires, les trinitaires, les quadrinitaires, tout cela, les Four Square, l'Église du Christ, et tous encore, ils sont tenus là dans leur credo et dans leur dénomination. Mais l'astronaute passe le mur du son. Il le traverse complètement, il n'entend rien. Oh, il va simplement au-delà de tout cela, voyez. Il est tout là-haut, où toutes les choses, il vit dans la présence de Dieu. Oui, monsieur, il l'a promis. Sa parole dit qu'il est le souverain sacrificateur. Vous voyez cet énorme radar qui bouge là-bas? Regardez-le dans la réunion. Vous pouvez observer lorsque le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colonne de feu comme il l'a promis. Alors un homme ne peut pas s'asseoir là et essayer de raisonner cela à partir de la science. Un vrai croyant ne fait pas cela. Qu'est-il? Il est l'écran du radar. Observez-le. Il commence à désigner quelqu'un. Amen. Et celui-ci est saisi ici, l'astronaute. Vous avez un cancer, vous avez ceci et cela, vous êtes un tel, vous venez de tel endroit, le Seigneur Jésus vous guérit. Alléluia! Il prend son départ, l'astronaute. Oh, quelle église ce serait! C'est maintenant même l'exploit éprouvé par la science. Ils l'ont démontré là-bas à l'exposition internationale. Nous l'avons. Amen! C'est prouvé partout. Nous vivons dans l'âge de l'astronaute. Voyez? C'était fait de choses invisibles. C'était fait de quelque chose qui venait du ciel. C'est Dieu lui-même, ici, dans cette sixième dimension. C'est la puissance de Dieu. Nous avons été dans un tel endroit jusqu'à ce que nous soyons élevés dans cette dimension, au-delà de ces choses, d'aller sur une tombe et de pleurer, de mettre un crêpe sur la poignée de la porte et de dire adieu à jamais. Alléluia! Nous sommes allés dans l'astronef. Nous sommes partis tout là-bas, nous avons vu ce que c'était, et nous sommes revenus. Gloire! Nous allons à la maison là-haut, au-delà du ciel, au-delà du raisonnement de l'homme. Ce qui est vieux sera transformé en un clin d'œil. Nous les verrons là-bas, de vieux hommes et de vieilles femmes, jeunes à nouveau. Comment le savez-vous? La Bible l'enseigne. Et Dieu envoya un astronaute là-haut, nous savons ce qu'il en est. Il revient. Il n'y a pas à s'inquiéter de mourir. Mourir, ce n'est rien. Certainement, c'est vivre. Oui, monsieur. C'est simplement que vos pieds quittent le sol pour que vous puissiez partir. Oh, comme c'est merveilleux. Il a promis toutes choses dans sa parole. Car Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les choses que Dieu fait, il peut les accomplir par un seul homme qui s'y abandonnerait. S'abandonnerait à la parole de Dieu, parce que comme je l'ai dit hier soir, il se tient toujours sur la parole. Maintenant, savez-vous que les astronautes ne sont pas tellement quelque chose de nouveau? Et Élie, s'il n'était pas un astronaute, alors peut-être que je n'en ai jamais vu, il est là où John Glenn n'a même jamais pensé aller. Vous savez qu'il y en a eu un qui est parti doucement un jour. Son nom était Enoch. Il continua simplement de marcher pour s'élever, mais il était un astronaute. C'est certain, il était pressurisé, il n'avait pas besoin d'être changé en rien. Non, il était déjà pressurisé quand il commença à marcher. En marchant, il quitta simplement toutes les dimensions et toutes choses. Il marcha dans la présence de Dieu. Et également, un vieil homme fatigué ne pouvait plus guère marcher. Il avait eu des ennuis avec Jézabel, ses cheveux coupés, son maquillage et toutes sortes de choses, jusqu'à ce que Dieu envoie un char et il dit, je vais t'emmener à travers les nuages cet après-midi. Un astronaute, un jour, il y en a eu un qui va mourir pour nous, et Dieu le releva le troisième jour, et 500 hommes se tenaient là, et il le vit enlevé dans les nuages, et une voix disant, je reviendrai. Un ange vint et il dit, ce même Jésus qui fut enlevé, le maître astronaute, reviendra de la même manière, dans la même forme dans laquelle il est un corps immortel. Alléluia! Et nous aurons un corps comme son propre corps, glorifié, car nous le verrons tel qu'il est. Oh! Alléluia! Il a brisé tous les murs du son, tous les murs du raisonnement. Il est allé au-delà de tout. Et tout homme qui a jamais vécu pour Dieu devra aller au-delà de ses cinq sens. Il devra dépasser toute l'instruction, tous les progrès que l'homme a été capable d'accomplir et croire à Dieu. Briser tout, mettre tout de côté et faire son entrée dans les cieux. Amen. Oh, ce que les astronautes et d'autres ont été capables d'accomplir dans le naturel, Dieu a été capable de le faire par son Église dans le spirituel, par un peuple spirituel qui croit. Tout homme, toute femme qui osera à n'importe quel moment prendre Dieu à sa parole est un astronaute. On dira, oh, ce n'est pas raisonnable. Écoutez ces gens qui crient, qui font du bruit. Entendez-vous cela? Oh, ça n'est tout de même pas raisonnable. Ça ne se comprend pas. Quelqu'un m'a dit, vous rêviez, frère Branham, lorsque vous avez vu cet endroit là-bas. Je n'ai jamais rêvé. Je me tenais là-haut, regardant en bas, là où j'étais allongé sur le lit. J'aurais pu être en train de rêver sur le lit, mais j'étais là-haut et je me voyais en bas, voyez-vous? Oh, ce matin-là, il m'a simplement fait faire une petite promenade d'astronaute. Il m'a montré où aller, et ça montre que votre radar vous dirigera exactement où il faut. Maintenant, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est votre esprit en vous, croyant ce message, et c'est le Saint-Esprit, se tenant là, à l'endroit où je suis, et vous le croyez comme cela, et ça met le contact, et votre réponse revient tout droit. Astronaute. Amen. Oh, comme c'est merveilleux. Oui, monsieur. C'est grand, la science a fait une grande chose. Et vous savez, ils ont fait une chose si grande qu'ils en arrivent à avoir peur d'eux-mêmes, c'est vrai. Ils ont quelque chose de si grand qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Vous savez qu'on a dit ici, il y a 2 ans, que c'était 3 minutes avant minuit. Ils ont peur. Que font-ils? Maintenant, l'homme a été capable, à partir du naturel, de concevoir un astronef naturel. Maintenant, il est capable de réaliser cet astronef. Et il pense que lorsque la Russie commencera à faire sauter ce pays ou quelques autres pays, il s'envolera vers la Lune. J'ai vu une petite chose très amusante ce jour. C'était vraiment très amusant. Il y avait 2 petits Indiens qui discutaient. Des petits et des gros, vous savez, comme cela. Ils avaient une plume derrière la tête et ils se prenaient par la main et ils la serraient. Ils disaient, frère, nous allons bientôt avoir à nouveau le pays pour nous parce que les hommes blancs s'en vont dans la lune. Ils disaient, notre pays va bientôt nous revenir. Les hommes blancs s'en vont sur la lune. Aussi, nous allons avoir notre pays de nouveau. C'est très bien. Maintenant, ils veulent tous avoir beaucoup d'astronefs pour pouvoir rentrer dedans. Et l'âge atomique arrive. Ils vont faire exploser la Terre. Ils tirent simplement ceci et ils vont tous sur la Lune. Ils font un voyage sur la Lune et ils font tout ce qu'ils veulent. Ainsi, ils vont simplement se créer une autre économie sur la Lune. Ils n'y arriveront pas. Je crois de tout mon cœur qu'ils n'y arriveront pas, voyez-vous. Mais en même temps, le réel croyant en Christ est entré dans son astronef. Amen. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés en un seul astronaute. Oh, un seul corps. Il peut supporter n'importe quelle pression. On l'a éprouvé dans une fournaise ardente. Il supportera le feu. Il ne pourra pas s'enflammer. 7 fois plus chaud. On l'a éprouvé et tout a bien marché. Ainsi, les scientifiques spirituels ont pu prouver qu'ils peuvent supporter n'importe quoi. Ainsi, le croyant spirituel s'est approché. Il est entré dans l'astronef de Dieu, Christ. Voyant toutes choses, laissant ses credos de côté, les credos pentecôtistes, les credos baptistes, les credos méthodistes, il est seulement entré dans l'astronef, disant, Seigneur, quand est-ce que ce sera prêt? Oh, que fait-il? Il vient à de petites réunions, il écoute le conte à rebours de la parole de Dieu. Vous savez, quand John Glenn était installé ce matin-là, ils écoutaient le conte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, voyez-vous? Et maintenant, il est à l'instant où on dit, il y a encore 3 minutes jusqu'à ce que quelque chose démarre. Ils ne savent pas ce que c'est. 3 minutes avant d'avoir l'heure 0. Maintenant, remarquez, le vrai croyant est en Christ. Pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Prêchez la parole. Restez ancrés sur la parole. Peu importe ce que disent les dénominations, ceux-là vont croire à la parole. Ils s'y tiendront parce que c'est la parole. Les gens des dénominations font des tas d'histoires. Ils les excommunient, les mettent dehors, ils disent, ils sont fous. Mais eux, ils s'en tiennent à la parole. Aussi longtemps que Dieu l'a promis, ils se tiennent là parce qu'ils sont des astronautes. Ils croient à la parole. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. De toute façon, ils vous quitteront aussi simplement. Laissez-les tranquilles. Mais ils sont entrés là, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. écoutons le compte à rebours, les âges de l'Église, etc. Gloire! Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Alors que vous écoutez le compte à rebours, qu'est-ce que le compte à rebours? Toutes les choses promises, c'est alors qu'elles arrivent. Toutes ces choses promises, c'est là qu'elles arrivent. Là où il y a une promesse, c'est là que cela arrive. Les exploits qu'il a promis pour aujourd'hui, les voilà justement parmi nous. Que font-ils? Ils écoutent le compte à rebours. Vient-il de loin? D'aussi loin que Luther. Le compte à rebours. Justification, sanctification, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh, que font-ils? Ils attendent le départ, l'heure zéro. Amen. Cette grande orbite que l'Église se prépare à parcourir est le temps glorieux du compte à rebours. J'aimerais vous expliquer ce que je pense qu'est le compte à rebours. Maintenant, je pense que nous sommes juste en train d'y passer dans l'Église ici. Et maintenant, vous remarquez que lorsque l'astronaute naturel se prépare à quitter la Terre, il y a un compte à rebours qui commence à 10 et qui va jusqu'à 0. Maintenant, je n'ai pas essayé d'apporter ce message et d'en donner une explication spirituelle. Cela prendrait trop de temps ce matin. Mais je veux essayer de vous expliquer ceci. Que 10 est le chiffre du monde, l'homme. Mais 7 est le chiffre de la perfection de Dieu. En 6 jours, il fit les cieux et la terre. Et le 7e, il se reposa. Et pendant 6000 ans, le monde, ou plutôt l'Église, lutte contre le péché. Et le 7e est le millénium, le sabbat. 7 est le chiffre parfait de Dieu. Et maintenant, il nous donne le compte à rebours juste. Et son compte à rebours n'est pas 10, mais 7. Nous venons juste de voir cela dans les 7 âges de l'Église. Et maintenant, nous découvrons dans l'Apocalypse que le premier compte à rebours fut le premier âge. Le second compte à rebours fut le second âge. Et jusqu'au 7e compte à rebours. Et maintenant, devant nos yeux, se découvre le fait que nous en sommes à ce compte à rebours. Le premier chiffre prononcé fut Éphèse, le second fut Smyrne, puis Pergame, puis Thyatire, le 5e fut Sardes, le 6e Philadelphie, le 7e est Laodicée, le dernier âge de l'Église. C'est donc le temps zéro où l'Église va partir après que les âges de l'Église soient terminés. Maintenant, nous savons que l'âge de Thyatire est venu, puis est parti. Que l'âge d'Éphèse est venu, puis est parti. L'âge de Philadelphie est venu, puis est parti. Et nous sommes dans le 7e âge de l'Église, à la fin de l'âge de l'Odyssée. Et c'est le compte à rebours. Si vous remarquez dans nos leçons précédentes sur les Églises, il tient dans ses mains 7 étoiles que nous avons trouvées être les 7 ministres des 7 âges de l'Église. Chacun est parfaitement identifié. Alors que Dieu faisait son compte à rebours, depuis le moment où il partit jusqu'à ce qu'il revienne, il rassembla un peuple en son nom. Il commença le jour de la Pentecôte. La première, l'église d'Éphèse, nous croyons que son étoile et son messager est Saint Paul. Il est venu et le chiffre 1 a été prononcé. Le deuxième âge de l'église qui était Smyrne eut Saint Irénée, ce grand saint de Dieu qui mena cet âge de l'église jusqu'à sa fin. Le troisième âge de l'Église, qui était Pergame, eut Saint Colombane, qui fut un grand saint de Dieu. Et pendant la période de l'âge sombre, pendant les persécutions, ce fut le quatrième âge. Et le quatrième compte à rebours, il y eut Saint Martin, le grand saint qui venait de France. Le cinquième âge de l'Église eut comme messager Martin Luther pour le compte à rebours. Le sixième âge eut Wesley pour le compte à rebours. Maintenant, nous sommes dans le septième âge. L'âge de l'Église de l'Odyssée. Et nous attendons ce grand messager de la seconde apparition d'Élie pour le compte à rebours. Et aussitôt que cela apparaît, alors c'est le moment zéro et l'Église prend le chemin de la maison, s'envole dans l'espace, vers les cieux, au-delà de la lune, des étoiles et de tout pour rencontrer le Seigneur Jésus. D'où ceci vint-il et où allèrent-ils? Dans cette astronef. Comment les gens entrèrent-ils d'abord dans l'astronef? C'est de la façon dont ils doivent y entrer, quel que soit l'endroit et le moment, c'est juste. Il faut qu'ils y entrent comme les premiers y entrèrent, parce que c'est une grande orbite d'un corps composé de beaucoup de gens. Au fond de Noé, il n'y avait qu'une seule porte, et cette porte était la seule entrée. Tout ce qui entrait, peu importait qu'ils aillent au premier étage, sous la justification, au deuxième étage ou au troisième étage, ils entraient tous par cette seule porte. Ils entraient tous par le même chemin. Et c'est la même chose en ce temps de l'astronaute. Nous devons entrer de la même manière, par le même chemin, par le même message, par le même Christ, par la même puissance qu'il reçut le jour de la Pentecôte. De la même façon. Cela a toujours été le même, parce que c'est la même porte. Et comment entrons-nous dans ce corps? Par la porte. Et Jésus est la porte qui mène à ce corps. Ainsi nous entrons et nous sommes nés dans le royaume de Dieu par la porte, Jésus-Christ. Et maintenant la porte est bien près de se fermer, au dernier compte à rebours de la Odyssée. Et l'Église s'apprête à se mettre en orbite au-delà de toute tribulation, de toute chose, et à prendre son essor vers les cieux des cieux, en portant l'Église vers le sein de Dieu. Amen.
Passage non enregistré sur les bandes modelées du Père.
Amen. Le matin où John Glenn partit là-bas, il levait les bras au ciel, pleurant et priant, se demandant ce qu'il allait être capable de faire. Et d'abord, le feu commença à s'étendre, propageant la force atomique, et ce grand et gros missile décolla là-bas, à Cap Canaveral. Il s'éleva dans les airs, et les gens criaient, pleuraient, et se demandaient ce qui allait arriver à leur astronaute qui s'en allait. Oh, mais l'Église, gloire, répond aussi un peu. Amen. Le compte à rebours arrive. Amen. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Âge de l'Église de la Odyssée, nous sommes à la fin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'arrive-t-il? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Ils ne pleureront pas, mais ils chanteront, feront retentir des cris de joie, louant Dieu, alors que l'Église prendra son astronef et s'élèvera vers le ciel pour être avec Jésus-Christ. Amen. Dans l'exploit naturel, ils se sont envolés vers la lune. Dans l'exploit spirituel, nous sommes emportés vers les cieux. Amen. L'astronaute naturel essaye de se trouver une place sur la lune. Nous avons déjà une place toute prête dans les cieux. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. J'irai vous préparer une place et je renverrai un astronaute pour vous prendre. Le compte à rebours est en marche. Le croyez-vous? Amen. Le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le feu commence à s'étendre. Le ministère est couronné dans la gloire. Alléluia. La vieille fusée commence à décoller, non pas dirigée vers la lune, mais dirigée vers la gloire. Elle est là-bas, le feu de Dieu s'étend, la puissance du Saint-Esprit la propage au-delà des étoiles, de la lune, au-delà de tout ce que pourrait jamais atteindre l'homme. L'Église prendra son vol vers le sein de Dieu dans les cieux l'un de ces jours. Amis, l'homme a pu réaliser ce qu'il a par les choses naturelles, et Dieu, je le prouve ici même, l'a typifié par le spirituel. Entrons vite dans l'astronef. La porte sera fermée après un moment. Le compte à rebours a commencé. La science dit que leur compte à rebours est de 3 minutes. Le nôtre peut être plus rapide. Il peut être à juste 1 et approcher de 0. Entrons! Croyez-vous que le compte à rebours est commencé? Alors courbons la tête un moment. Père, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh Dieu, les nations se dispersent. Israël se réveille, les signes que les prophètes ont annoncés, les jours des gentils sont comptés. Pressé de tribulation, reviens aux dispersés à ton héritage. Quel jour, la lumière du soir brille. Ô Dieu, nous te prions que les incroyants délaissent rapidement toutes ces pensées de gens instruits, toutes ces idées contraires à ta parole, et qu'ils entrent ce matin dans cette astronef glorieuse, car nous y sommes nés. Nous sommes dedans pour devenir une partie de l'astronaute. Je te prie, Père Céleste, dans ce grand corps de Christ baptisé du Saint-Esprit, les croyants aujourd'hui, que le baptistère soit plein ce matin de gens confessant leurs péchés, ensevelis dans le nom de Jésus-Christ, et montant à bord de cette vieille astronef, Seigneur, qui part au-delà de la lune et des étoiles, et au-delà des credos et des dénominations. Nous avons le compte à rebours. Il nous a dit ce qui serait les trois, ces trois parties de ceci, nous a montré les âges de l'Église. Comment ils arrivent, le premier âge de l'Église, le second âge de l'Église, le troisième âge de l'Église, le quatrième, le cinquième, le sixième. Ce compte est le septième. Et ensuite, cet âge où y sommes déjà, le dernier âge de l'Église. Et le compte à rebours est commencé. Les âges ont déjà été comptés. L'âge de Luther, l'âge de Wesley, l'âge de la Pentecôte. Et maintenant, Seigneur, nous assemblant dans l'astronef, avec devant une grande longue vue, nous pouvons voir la gloire, voir Jésus, le voir dans toute sa puissance, le voir dans chacune de ses promesses. Toutes les choses qu'il a promises se reflètent sur nous. Nous en sommes reconnaissants. Ô Dieu, que l'Église aujourd'hui entre rapidement dans la zone de sécurité, car bientôt arrive l'heure zéro, et la porte de la grande astronef sera fermée, l'avion de l'astronaute. Et nous irons comme le fit Noé quand il entra dans son astronef et qu'il flotta au-dessus de toutes les eaux du jugement. Et Père, nous voulons être en toi pour pouvoir flotter au-delà des courants du temps, plus loin que Mars, Jupiter, Vénus, au-delà de la voie lactée, toujours et toujours plus haut, là où l'astronaute naturel ne connaît rien. Mais nous voyons que tu le laisses faire ces choses comme un signe pour que nous puissions être prêts à partir. Nous quittons la terre. Accorde-le, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, je te le demande. Et voici les mouchoirs posés là, Seigneur. Ce sont des malades qui les ont envoyés. Ils croient, Seigneur. Et puissent-ils devenir des astronautes complets ce matin, que la puissance du Dieu Tout-Puissant confirme sa Bible à ce sujet, qu'on prenait des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Paul et que les malades et les affligés étaient guéris. Que l'astronaute croyant, lorsque cela le touche, décolle, Seigneur. La maladie reste derrière, que chaque malade ici maintenant, Seigneur, entre directement en Christ, en ta parole et tes promesses. Et disant quoi que vous demandiez au Père en mon nom, je le ferai. Qu'il commence à compter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Pas, Seigneur. Qu'ils soulèvent leur lit ou leur brancard, quoi que ce soit. Qu'ils se lèvent loin de la maladie qui les retient prisonniers pour partir vers les espaces éloignés dont les docteurs, les scientifiques, personne d'entre eux ne connaissent rien. Là où la puissance de Dieu a promis, par la recherche scientifique de la Bible, ici, ou plutôt la recherche spirituelle de la Bible, de montrer que Dieu est toujours Dieu, fut toujours Dieu, est encore Dieu, sera toujours Dieu, et qu'il est un être infini, tout puissant, omnipotent, omniprésent, qui peut tenir sa parole. Il peut faire toutes choses. Il nous a promis que toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Ô Dieu, accorde-leur que l'homme, la femme, le garçon, la fille rebelle ce matin, qui ne sont pas là à écouter le compte à rebours de la parole de Dieu, qu'ils sachent que nous sommes au pied du mur, la dernière ayant été comptée. Et maintenant, elle est prête à crier zéro à tout moment. L'Église va s'en aller. Nous voyons que le message se termine. Nous voyons les persécutions commencer, comme nous l'avons dit hier soir. Nous savons que le temps est proche. Le compte à rebours est terminé. Il nous a aidés ici sur l'estrade à apporter les âges de l'Église, à prendre toutes les autres choses et les prouver de sorte que maintenant, n'importe quand, cela peut arriver. Dieu Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, fait miséricorde aux gens et donne-leur ce que tu as en réserve pour eux, car nous te le demandons dans le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, fais miséricorde aux gens et donne-leur ce que tu as en réserve pour eux, car nous te le demandons dans le nom de Jésus. Et parmi ces hommes et ces femmes qui ont la tête inclinée, s'il y en a ici qui ne connaissent pas Christ comme leur sauveur ce matin, et qui voudraient le connaître et entrer dans cette condition d'astronaute de la grâce de Dieu, pour être enlevé, voudriez-vous juste lever la main et dire « Je suis prêt, je désire être prêt pour l'enlèvement. Frère Branham, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse vous et vous. Dehors, où que vous soyez, levez simplement la main, comme ceci vous dites, oh Dieu, fais-moi entrer. Que Dieu vous bénisse. Je veux entendre le compte à rebours. Je veux l'entendre. Je veux savoir que je suis en sûreté. que lorsque la fusée partira, je ne resterai pas là, assis dans ma voiture à cheval. Je ne serai pas là dans une église, roulant dans une automobile. Je ne serai pas là où on ne peut que détacher ses pieds de la terre assez longtemps pour sauter et faire beaucoup de bruit. Je veux être dans quelque chose qui m'emportera au-delà de la lune et des étoiles. Je veux écouter le compte à rebours, pas un credo ni une dénomination, mais je désire être en Christ, où je peux voguer au-delà de tout raisonnement humain. Je veux partir. Y a-t-il quelqu'un d'autre avant que nous prions? Que Dieu vous bénisse, jeune fille. Et que Dieu vous bénisse, vous, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, et vous, là-bas, derrière. Je vois votre main, et Dieu la voit certainement. Et vous, mon frère, votre frère, je veux être dans ce compte à rebours. Oh Dieu, aide-moi à déposer tout fardeau. Dieu vous bénisse, frère. Je veux abandonner tout péché. J'ai mauvais caractère, frère Branham. Oh, je ne pourrais pas entrer ainsi. Je te prie, Dieu, de me l'enlever. Je bois, frère Branham, je bois un peu, je ne veux pas le faire, mais Dieu sait que je ne veux pas le faire, ces choses me lient, si bien que je le fais, je ne peux pas m'en défaire, je sais que c'est mal, je ne devrais pas le faire, je ne voudrais pas. Ou bien peut-être est-ce autre chose, j'ai douté de la parole, je me suis simplement demandé s'il était vraiment juste. Aide-moi, ô Dieu, que je me souvienne que tout est juste, et j'y crois. Je veux écouter le conte à retour, je veux être là, où à chaque fois que je vois que la parole de Dieu dit quelque chose, je ponctuerai avec un amen et je dirai c'est toi, Seigneur. Maintenant, vous tous, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Y a-t-il quelqu'un ici maintenant qui est malade et qui dit, frère Branham, ce matin je suis un chrétien, mais j'ai le Saint-Esprit, je suis sorti de l'avion maintenant, je suis prêt pour le compte à rebours, je suis sorti de toutes les dénominations et de toute autre chose, écoutant le compte à rebours. Mais ce matin, je veux dire ceci, frère Branham, je suis malade. J'ai encore du travail à faire pour le Seigneur. J'écoute le compte à rebours, mais je désire une bonne santé. Je franchis cet obstacle ce matin, écoutant le compte à rebours. Qu'est-ce que le compte à rebours? La parole de Dieu. Cela est compté complètement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux l'entendre comme celui qui me guérit ce matin. Je veux lever la main et dire, priez pour moi, frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Entrez maintenant même. Entrez maintenant. L'autel est plein et tout alentour, tout est plein. Nous ne pourrions même pas avoir une ligne de prière. Ils se tiennent le long des murs et partout. C'est une vraie foule. Vous n'avez pas besoin de faire cela. Vous êtes vous êtes un astronaute. Vous êtes un astronaute, vous allez au-delà de Luther. Luther ne croyait pas à tout. Wesley imposait les mains, les pentecôtistes, Wineville. Vous êtes un astronaute au-delà de tout raisonnement. Simplement parce que la parole le dit, je continue. Eh bien, dites-vous, Luther ne croyait-il pas? N'était-ce pas la parole? Oui, mais Wesley alla plus loin que lui. Eh bien, Wesley, Wineville ou quelque chose d'autre, vous croyez cela? Oui, c'est juste. Les pentecôtistes chassent les démons. Oui, ils imposent les mains. Ils avaient la guérison divine entre les mains et tout le reste. Oui, je sais que c'est vrai. Mais continuez, continuez. Wesley ne regardait pas en arrière vers Luther. La Pentecôte ne regarde pas Wesley. Nous non plus, nous ne regardons pas en arrière à la Pentecôte. Nous sommes des astronautes. Nous sommes plus loin que cela. Continuons. Christ l'a dit. Et comment le faites-vous? Viens imposer les mains à ma fille, elle sera guérie, dit le Juif. Jésus alla, il le fit pour lui, c'est juste. Mais le Romain, l'astronaute, il dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement la parole, Seigneur. Et il l'avait déjà dit. C'est cela. Maintenant, élevons nos cœurs vers Dieu. Levons les mains vers Dieu et nos cœurs vers Dieu. Car quoi que vous ayez besoin, salut, sanctification, baptême du Saint-Esprit, guérison divine, quoi que ce soit, élevez vos cœurs, élevez vos mains dans la présence de Dieu. Réalisez que vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, que vous êtes un astronaute de 7 points. Quoi? Voici le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh, Jésus descend. Nous plaçons la puissance de son nom. Et comme nous l'avons vu hier soir, Paul frappa un homme de cécité. Et nous voyons que Jésus pouvait faire tout ce qu'il, toutes sortes de miracles. Et cependant, à la fin de sa route, il fut frappé. En lui crachant au visage et bien d'autres choses. Les gens ne le comprennent pas. Ils réalisent que Dieu le fait pour confirmer que c'est juste. Puis éprouve la foi des gens. Seigneur, nous sommes tenus ici. Nous avons vu des aveugles recouvrer la vue. La maladie des cancers qui couvrait les gens de leur ombre fut guérie. Nous avons vu des gens qui étaient morts depuis plusieurs heures revenir à la vie. Nous savons que c'est notre merveilleux Christ dans le corps duquel nous sommes des astronautes. Et maintenant le compte à rebours a commencé. Et ce matin, nous allons croire pour notre guérison, notre salut et pour tout ce dont nous avons besoin. Car lorsque nous demandons dans le nom de Jésus-Christ, il a promis, demandez au Père ce que vous voudrez en mon nom et je le ferai. Et tout ce que nous avons besoin de faire, c'est invoquer son nom et cela sera fait. Nous écoutons le compte à rebours. Seigneur, certains qui ont été des pécheurs ont levé la main. Ils attendent le compte à rebours. Quand un changement se fera dans leur cœur, la vieille corruption les quittera. Il y en a beaucoup qui fument la cigarette et qui sont prêts à la jeter. Beaucoup qui ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire et qui sont prêts à les rejeter. Parce que nous demandons au Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, d'enlever toutes les choses qui retiennent l'Église ce matin, depuis la maladie jusqu'au péché, et de libérer cette Église. Dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance et la puissance du glorieux Évangile, que le feu du Saint-Esprit commence à se répandre et que les grands astronautes de Dieu prennent leur départ selon le désir de leur cœur aujourd'hui. Accorde-le, Dieu Tout-Puissant. Ils sont à toi et puissent-ils recevoir leur guérison, leur salut et tout ce dont ils ont besoin. Je te les recommande et je te les présente avec ma prière sur l'autel où le sang de Jésus-Christ est toujours nouveau ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, puissent-ils recevoir ce qu'ils ont demandé. Et les gens disent, amen. Aussi croyez. Il en est donc ainsi. Je le crois. Je crois. Amen. Je sais qu'il est Dieu. Je sais que nous sommes prêts pour le grand accomplissement de Dieu. Quel est cet accomplissement? Quitter la terre. L'astronaute va dans la lune, une autre terre, et l'Église de Dieu, depuis l'avion, depuis le cheval, etc., part comme un astronaute vers un autre monde qui est le ciel. Le compte à rebours a commencé. Amen. L'aimez-vous? Alors levons nos mains et chantons. Je l'aime, car il m'aima le premier. Loué soit le Seigneur, et que Dieu vous bénisse, jusqu'à ce que nous revoyons ce soir.